Voilà pour l'info, excellente matinée.
Coucou, c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio.
Voilà, avec cette semaine qui commence, pas qu'avec des bonnes nouvelles, je vous l'accorde, mais bon. Alors aujourd'hui, on souhaite une bonne fête au Arnaud, un prénom qui vient de l'expression « le gouverneur de l'aigle ». Ce prénom évoque donc le majestueux oiseau de proie, symbole de liberté, d'agressivité, de puissance. Et alors donc, sans agressivité, eh bien je vous souhaite une très très bonne matinée. Allez, un café, un peu de tendresse, et c'est bien parti.
Le jour se lève, et je me lève. Je me tairai dans ma tanière, comme un ours au cours de l'hiver. Le jour se lève, et je me lève. C'est bon de revoir la lumière, c'est bon de revenir sur terre. Ces jours qui ressemblaient aux nuits m'enlevaient le goût de la vie. Je t'aime encore. Tu vois, plus rien ne nous sépare, elle n'est pas finie notre histoire. Je t'aime, je t'aime encore. Je me suis trompé de chemin, je t'ai lâché la main, mais je t'aime. Je t'aime encore. Le jour se lève et je me lève. La lune va faire le dos rond sous d'autres horizons. Le jour se lève et je me lève. Coiffé de gouttes de rosée, les fleurs sont toutes ensommeillées. Un oiseau apprend sa chanson. Je vais arranger la maison. Tu m'aimes. Tu m'aimes encore. Reviens, plus rien ne nous sépare. Elle n'est pas finie notre histoire. Tu m'aimes encore. On s'est trompé de chemin. On chantait chacun son refrain. Mais tu m'aimes encore. Je me lève et je me lève. C'est bon de revoir la lumière, c'est bon de revenir sur terre. Le jour se lève et je me lève. Ouvrons les portes et s'il le faut, nettoyons le sol à grande eau. Enlevons la poussière du temps, tout redeviendra comme avant. On s'aime encore. Bien, plus rien ne nous sépare, elle n'est pas finie notre histoire. On s'aime, on s'aime, on s'aime encore. On est sur le même chemin, on chante le même refrain. On s'aime, on s'aime, on s'aime encore. On est sur le même chemin, on chante le même refrain. Je t'aime, tu m'aimes encore.
Georges Chelon sur Radio Plus. Alors dans notre rubrique Saltant sur la planète, aujourd'hui Jean-Louis Ouattet, président de l'Étrême Nature, nous parlera de l'empreinte carbone du papier toilette. Eh bien oui, vous savez que depuis 2020, on fait la guerre aux produits à usage unique, sauf peut-être pour le papier toilette que la plupart des gens considèrent comme un indispensable. Mais savez-vous que ce papier pèse lourd sur notre environnement? Sur notre environnement d'ailleurs et sur nos arbres. Et Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages et jardins des hommes, que nous retrouverons pour notre rubrique Jardiner autrement, sera sans doute désolé en prenant connaissance de certains chiffres. Bertrand, avec qui nous découvrirons ce nouveau virus qui menace non pas la Chine, mais la tomate. Et puis, comme nous vous l'avions annoncé la semaine dernière, Anne Renard, la maman de Romain, sera de nouveau avec nous cette semaine pour nous présenter cette association qu'elle a créée pour aider les enfants porteurs de troubles neurodéveloppementaux, comme les troubles autistiques par exemple. Elle nous a fait part des gros progrès faits par Romain. Alors pourquoi ne pas aider les parents qui veulent mettre en place la même méthode? C'est l'objectif, entre autres, de cette association, et Anne nous en dira plus tout à l'heure.
Mon enfant nu sur les galets, le vent dans tes cheveux défaits, comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret, seule la lumière pourrait défaire nos repères secrets, où mes doigts pris sur tes poignets, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets. Le ciel prétend qu'il te connaît. Il est si beau, c'est sûrement vrai. Lui qui ne s'approche jamais, je l'ai vu pris dans tes filets. Le monde a tellement de regrets, tellement de choses qu'on promet. Une seule pour laquelle je suis fait. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Mais quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets.
Francis Cabrel sur Radio Plus. Alors, notre enquête dans l'air du temps va me permettre de vous donner quelques chiffres assez dingues sur les toilettes. Oui, nos toilettes. Eh bien oui, après Jean-Louis et moi, vous parlerons papier hygiénique. Donc, pourquoi? Par exemple, une poignée de portes de toilettes publiques compte en moyenne 6200 germes par centimètre carré. Un Américain passe en moyenne 30 minutes par an à chercher le bout du rouleau de papier toilette. Tout ça à cause d'un, appelez-le comme vous voulez, qui n'oriente pas le rouleau de PQ dans le bon sens. Et puis nous allons en moyenne 2200 fois par an aux toilettes. 23,5% des Français avouent ne pas se laver les mains en sortant des chiottes. Bande de cochons. Et nous passerions en moyenne 3 ans de notre vie aux toilettes. Édifiant, non?
C'est un petit coin tranquille, au beau milieu de la ville. Je me retrouve enfin tout seul et face à mon destin. C'est pas grand, c'est pas grand chose, 2 mètres carrés je suppose. Mais là au moins je me sens bien, et j'y vais quand j'en ai besoin. Je m'en fous, je reste ici, je reste assis. Je viens soulager mes malheurs en rêvant d'un monde meilleur. Je m'en fous, je reste ici, je suis bien assis. J'y resterai pendant des heures, c'est trop la merde à l'extérieur. Un parfum de brise marine vient me chatouiller les narines. Et tout nu loin des convenances, j'ai l'impression d'être en vacances. Pas de télé, pas de radio, juste le doux gazouillis de l'eau. Et des filles en joli dessous, dont le mur est tapissé partout. Je m'en fous, je reste ici, je reste assis. Je viens soulager mes malheurs en rêvant d'un monde meilleur. Je m'en fous, je reste ici, je suis bien assis. J'y resterai pendant des heures, c'est trop la merde à l'extérieur. Un rouleau de papier, un crayon, je viens chercher l'inspiration. Et trouvant l'endroit poétique, je prends des vers mélancoliques. Je n'en vis pas le cabinet d'un ministre, ça sent trop mauvais. Ce qui se passe dans mes toilettes, c'est pas glorieux, mais c'est honnête. Je reste ici, je reste assis. Je viens soulager mes malheurs en rêvant d'un monde meilleur. Je m'en fous, je reste ici, j'ai pas fini. J'y resterai pendant 2 heures, c'est trop la merde à l'extérieur. Je m'en fous. Non, je suis occupé. Je m'en fous.
Alors voilà, c'était Vincent Baguian. La semaine dernière, nous parlions des déchets, de leur tri, de leur recyclage. Et lors de rubriques précédentes, eh bien, nous avons annoncé cette loi anti-gaspillage qui a pris effet début janvier, avec notamment la guerre déclarée aux produits à usage unique. Alors, au risque de vous faire sourire, eh bien, le papier de toilette n'est pas encore concerné. Et pourtant, Jean-Louis Ouattet, bonjour.
Bonjour Martine.
Alors, ce sont les Canadiens qui se sont penchés sur ce problème, car paraît-il que ce papier pèse lourd sur l'environnement, à commencer par son impact sur les forêts et en fin de parcours sur les usines d'épuration des eaux usées. Alors bon Jean-Louis, on ne sait pas se passer de papier toilette dans notre pays, comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs, mais lorsqu'on arrache une feuille, c'est vrai qu'on ne pense pas que beaucoup font la même chose plusieurs fois par jour, et les chiffres témoignent de la grosse, voire très grosse consommation de ce produit.
Oui, tout à fait. Il faut savoir que au niveau européen, un Européen utilise en moyenne 13 kilos de papier hygiénique chaque année. Et à ce niveau-là, les Français ne sont pas les plus gros consommateurs de loin. En moyenne, c'est 6,5 kilos. Donc, on est à la moitié. Donc, Là, à ce niveau-là, on est bien placé. Alors, c'est 6,5 kilos par an, hein, par personne. Donc, ce qui correspond à peu près à 103 rouleaux de 60 grammes. Et donc, ça correspond à une dépense annuelle comprise entre 90 et 100 euros par an par personne. Donc, au niveau des tonnes, ça fait quand même plus de 400 000 tonnes de papier. Il faut savoir qu'en Allemagne, c'est le double. Hein, les Allemands consomment 13 kilos par personne et presque autant que les Américains, qui sont les champions du monde au niveau papier. Et les champions du monde, mais aussi pour les papiers les plus dangereux pour l'environnement.
Oui, mais ils sont un petit peu plus gros que nous. Hein.
Voilà, tout à fait.
En tout cas, Jean-Louis, c'est un impact considérable sur notre environnement. Alors déjà, pour sa fabrication.
Oui, tout à fait. Il faut savoir que bon, le papier s'est produit beaucoup encore à partir des arbres. Et donc, ça représente un nombre d'arbres considérable. Hein, c'est à peu près chaque jour 270 000 arbres qui sont utilisés pour produire des produits ménagers, pas que du papier, bien entendu, dans le monde, papier toilette, papier absorbant, mouchoir, serviette en papier. Selon Greenpeace, hein, 98% du papier toilette utilisé par les Américains, c'est des papiers hygiéniques de luxe, hein, molletonnés, multicouches, en couleur, triple épaisseur, etc., et qui sont malheureusement prélevés à partir d'arbres, ils sont fabriqués, à partir d'arbres qui sont prélevés dans des forêts vierges, et donc ce qui est quand même assez plus qu'inquiétant. Mmh. Hein. Il faut savoir qu'en 2014, donc ça fait quand même quelques années, les ventes de papier de toilette de luxe ont représenté 1,4 milliard de dollars aux États-Unis. Et donc, en fait, l'ONG Greenpeace hein, accuse le numéro un mondial de l'hygiène, le leader européen, d'utiliser pour fabriquer ses produits. Bon, je ne citerai pas de marque, mais de la pâte à papier issue d'arbres coupés dans les forêts boréales du nord de l'Europe. Hein. C'est des forêts qu'il faut absolument protéger. Et en fait, on replante. Hein, l'industriel dit qu'il replante, mais il replante les zones déboisées avec une espèce qui est classée comme invasive. Donc ça met en danger la biodiversité des forêts qui bordent le cercle polaire. Et puis les papiers toilettes, faut savoir aussi que beaucoup les papiers toilettes parfumés sont bourrés de produits chimiques, ce qui n'est pas sans poser de problème au niveau de l'environnement. Hein. Et donc et le problème, c'est qu'aujourd'hui, aucune loi n'oblige les fabricants à mentionner la composition des parfums sur l'emballage, ce qui est quand même problématique.
Mmh. Alors justement, bon, il n'y a pas que les Américains, hein, il faut bien l'avouer. Nous aussi, on l'aime doux, épais, molletonné, multicouche. Mais alors, n'oublions pas aussi, Jean-Louis, qu'il part ensuite dans la cuvette, enfin en principe, hein, et qu'il va donc polluer les eaux usées, quoique Jean-Louis, normalement, il est biodégradable. Je dis en principe, car certains pays interdisent de jeter ce papier dans les toilettes directement, mettant à disposition des poubelles prévues à cet effet. C'est vrai que j'ai vu ça en voyageant. Mais alors, d'autre part, quand on parle de biodégradable, attention au support rouleau.
Oui, tout à fait. Il y a une marque qui a lancé le rouleau biodégradable. Hein. C'est vraiment l'innovation qui ne sert à rien. Hein. En fait, ce rouleau est supposé être pour qu'on puisse le jeter dans les toilettes. Donc, il est certes biodégradable, mais malheureusement, il n'est pas dégradé quand il arrive dans les stations d'épuration. Et puis surtout, ça envoie un signal aux enfants, et pas que d'ailleurs, qu'on peut tout jeter dans les toilettes. Hein. Ça cultive à tort l'idée selon laquelle les toilettes sont une poubelle. Hein. Il faut savoir que l'année dernière, le syndicat interdépartemental de l'assainissement pour l'agglomération parisienne expliquait que ces tubes, hein, ce qu'on appelle les aquatubes, rajoutaient une pollution supplémentaire aux eaux usées. C'était une charge supplémentaire à éliminer en station d'épuration. Donc surtout, le rouleau biodégradable évité.
Et justement, la semaine prochaine, nous parlons de ce qu'il ne faut absolument pas jeter dans les toilettes. Oui, on n'est pas dans le caca, hein, Jean-Louis.
Non, mais... Voilà.
Alors, Jean-Louis, certaines marques, oui, tentent quand même, de certaines marques de papier toilette, hein, tentent de minimiser l'impact écologique et l'utilisation de produits chimiques. Là aussi, comme vous l'avez dit précédemment, il faut se montrer très vigilant quant aux produits chimiques parce que, bon, c'est vrai que ça part après dans les eaux usées, mais aussi sur notre peau, il faut bien le dire, ça n'est pas sans problème.
Non, il faut être quand même vigilant. Donc le papier, ne le choisissez, je l'ai dit, ni imprimé, ni coloré, ni blanc comme neige. Hein. Il faut savoir que les papiers imprimés et colorés, c'est un mauvais choix, mais ils contiennent des colorants chimiques toxiques. Alors c'est toxique pour les eaux usées, mais c'est toxique aussi pour la santé. Mmh. Ne pas choisir non plus les papiers toilettes d'un blanc éclatant, hein, parce que ils sont blanchis au chlore. Il faut savoir que le chlore, ça irrite les muqueuses et qu'une exposition prolongée et répétée va provoquer des affections cutanées et inflammatoires. Donc, être vigilant sur ce type de papier. Si on veut rester écolo, eh bien, il faut chercher les logos, hein, et la mention notamment FSC, hein, c'est les forêts qui sont gérées de manière écologique sur la planète, hein, la mention FSC sur l'emballage du papier toilette, ça témoigne que le papier est bien issu de la pâte de bois, mais par de forêts qui sont gérées durablement. Mmh. Et puis, il faut privilégier les papiers toilettes aux épaisseurs plus fines, plus écologiques, regardez quand même les écolabels, hein, il y a des écolabels européens, qui ne sentent pas la menthe synthétique ou tout autre,
tout à fait.
La rose planée.
Alors, justement, pour éviter le gros impact écologique et pour éviter la destruction massive d'arbres, ne pourrait-on pas, Jean-Louis, opter pour le recycler ?
Alors, attention quand même au papier recyclé. Oui, utiliser le recyclé, mais faut être vigilant aussi sur le recyclage, c'est-à-dire sur la matière première du recyclé. Faut savoir que la matière première du recyclé, c'est constitué majoritairement de documents de bureau qui ont fini à la poubelle, mais qui contiennent encore des encres d'imprimerie. Et malheureusement, ces encres d'imprimerie comprennent du bisphénol A. Donc, faut savoir, on en a déjà parlé, hein, le bisphénol, c'est un perturbateur endocrinien reconnu, qui augmente les risques de maladies et qui peut s'attaquer à la stérilité, qui peut rendre stérile. Et donc, sa présence sur les feuilles de papier imprimé, de journal, n'est pas dangereuse tant qu'on ne l'avale pas, mais à ne pas s'en servir dans les papiers toilettes. Donc, il faut que les papiers recyclés ne soient pas non plus blanchis au chlore. Donc, éviter le papier journal. Alors, le mieux, c'est à partir d'emballage carton. Donc, faire quand même attention au papier recyclé. Donc, il faut quand même avoir des garanties de papier qui ne sont pas blanchis et qui ne sont pas des papiers qui contiennent des encres avec du bisphénol. Donc, c'est pas évident de faire ce choix.
Quoi qu'en principe, on n'avale pas son papier hygiénique, normalement.
Mais bon. Mais bon, je veux dire que le bisphénol,
oui, tout
il
à
a
fait.
Pas besoin de passer par la voie digestive pour agir.
Alors, et puis, il y en a certains qui parlent de fibres de bambou. Alors, n'y a-t-il pas un mais à cela ?
Le bambou, c'est une plante étonnante à bien des égards. Hein. On en découvre chaque jour de nouvelles utilisations. On parle souvent de forêt de bambou, mais savoir que c'est pas un arbre, c'est une graminée comme herbe et maïs. Il est promis à un bel avenir, mais attention toutefois, le bambou n'est pas durable. Hein. Savoir que déjà dans le commerce traditionnel du bambou, beaucoup de bambou vient d'Asie, c'est des intermédiaires qui achètent le bambou à des prix très bas aux petits producteurs et qui n'ont aucun pouvoir de négociation. Donc, faible revenu, conditions de vie difficiles, les cultures de bambou sont loin d'être durables, notamment avec une demande qui va en augmentant. Il faut savoir qu'il y a des forêts entières en Asie qui sont rasées pour laisser place à des plantations de bambou en monoculture, donc qui ont tendance d'ailleurs, parce que le bambou est quand même une plante envahissante, ça envahit les peuplements forestiers annexes, et donc... avec des racines qui sont traçantes, avec des rhizomes, et donc ça perturbe les écosystèmes. En plus, les coupes, souvent, bah, pour question de rentabilité, vont être effectuées sans attendre que les bambous arrivent à maturité. Donc ça donne des produits de mauvaise qualité. Et puis, sans compter les effets méconnus de la monoculture sur l'environnement, épuisement des sols, les maladies, les rongeurs, fait. Etc. Donc il faut, avant d'acheter des produits en bambou, vérifier la provenance.
Tout à fait.
Hein, et s'ils ont été fabriqués avec une démarche durable et de commerce équitable, surtout, qui est initiée par la marque distributrice. Donc déjà, les bambous, labellisés FSC, toujours ce même logo, hein, qui est important, qui garantit quand même une bonne plantation. Hein, c'est un bel avenir, hein, le bambou devant lui, mais il nous appartient à nous, consommateurs, d'être très vigilants et d'être attentifs aux produits qu'on va choisir.
Bien sûr. Hein,
pour être sûr que cette matière première soit pas synonyme de surexploitation et puis de greenwashing dans les années à venir.
En tout cas, bon Jean-Louis, pendant des millénaires, hein, l'homme a utilisé feuilles d'arbres, doigts, pierres ou bâtons. Nos grands-parents, c'était le papier journal. Alors, je trouvais que finalement, le papier toilette était une belle invention. J'avais peut-être tort. En tout cas, attention à comment on le déroule, car là, c'est pour la petite anecdote. Paraît-il, cela en dit long sur notre personnalité. Alors, ce que je sais, c'est que l'inventeur, qui était Seth Wheeler, voulait qu'on mette la feuille à l'extérieur, car de cette façon, les feuilles se séparent mieux les unes des autres. Bon. Ça se discute, mais vous savez qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le papier toilette, Jean-Louis, pour nous faire sourire.
Roman, hein.
Et oui, et peut-être pour oublier justement son impact écologique. En tout cas, Jean-Louis, merci de nous avoir fait prendre conscience que même ce petit geste que l'on fait tous les jours n'est pas sans conséquence pour notre planète. Je vous dis à lundi prochain.
À lundi et bonne semaine.
Bonne semaine à vous, merci Jean-Louis.
Javel, encaustique, savon, terre et bandine. Toile cirée, pâte à bois, néoprène, paraffine. Entrée à l'intérieur, tout n'est pas en vitrine. Des piles, des pelles, des pioches, des peignes, des pinces, des pics. Des couches, du gaz, des gueuses, des cuvettes en plastique. Des joints, des sacs, des tiges, du papier hygiénique. Tous les modules, toutes les grosseurs. À deux pas de chez vous, c'est de loin le meilleur. J'ai nommé Wilson, oui, le marchand de couleurs.
Tous les jours,
commerçant du faubourg.
Commerçant du faubourg.
On vous aime.
Commerçant du faubourg. On vous aime.
Tous les jours,
commerçant du faubourg.
Commerçant du faubourg. On vous aime d'amour.
Commerçant du faubourg. On vous aime.
Article de Paris, cravate et nœud papillon. Mouchoir petit, tulle, pyjama en molleton. Des gants, des épaulettes, des boutons, des pompons. Ruban, lacet, croton, cotonnade, satinette. Du fil dit sur le slip, du choix dans la soquette. Elle tient jolie boutique, la reine de la ruflette.
Oui, la paruflette.
Elle en a du bilou, des caleçons, des jarretières. Des glandes, des cibles, des cordes, des cordons, des lanières. J'aime votre bobine, madame la mercière. Tous les jours,
commerçant du faubourg.
Commerçant du faubourg.
Tous les jours, depuis toujours mon camarade et moi.
On vous aime.
Commerçant du faubourg, on vous aime.
Tous les jours,
commerçant du faubourg.
Commerçant du faubourg.
Tous les jours, depuis toujours, mon cœur.
Depuis bientôt toujours, on vous aime d'amour.
Tous les jours,
commerçant du faubourg. Les joies de la ficelle, le croquant du balmy, le moelleux du chou qui est devoir mettre boulanger. La bavette, c'est en face, j'ai l'artiste bouché. De cabinet, aiguillette de lapin, le charcutier du coin, faites un sac à boudin. Pour les problèmes de jus, voyez l'électricien.
Fermez tous les lundis, sauf le dimanche matin.
Pencher le travail soigné.
Il y a des mains en or.
Il fait glisser des lèvres, il essuie calor.
Devant les radios là,
il lui en reste encore. Le trépied d'à côté s'occupe du moule du chat. Sa grille chat dégote son museau est extra. Envie de Batavia, le cours des ailes est là.
Où ça?
Là.
Richard Gottener sur Radio Plus, eh bien pas besoin de tout cela pour aller au jardin. Allez tout de suite avec nous, Bertrand Trinel, le président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes.
Il y
avait un jardin qu'on appelait la terre.
Bonjour Bertrand.
Alors bonjour Martine et bonjour aux auditeurs.
Alors figurez-vous Bertrand que j'ai trouvé ce dicton pour ce 10 février. Un verre de vin est une chaude fourrure. Bon, avec modération quand même. Et puis en plus, il ne fait pas trop froid. Alors bon. Par contre, il y en a d'autres qui disent qu'en février commence en lion, il finit comme un mouton. Ou alors quand la bise oublie février, elle arrive en mai. Alors c'est vrai que ce mois n'a pas commencé très froid, quoique la bise, comme ils disent, n'a pas été particulièrement tendre avec nous. Surtout ici, cette nuit, enfin hier et cette nuit. Et puis aujourd'hui, je crois que ça va continuer un petit peu. Mais comme me disait une dame dans un magasin, je me souviens du temps où à cette époque de l'année, nous avions beaucoup de neige. Alors que se passe-t-il, avait-elle dit. Eh bien oui, madame, nous sommes en effet en période de changement climatique, n'est-ce pas, Bertrand?
Oui, tout à fait, on est en pleine période de changement climatique. Et si rien n'est fait, ben, cela va empirer. Hein. Alors, il y a encore des gens qui se réjouissent d'avoir des étés plus chauds, moins de gel l'hiver et tout ça. Ben, je pense qu'ils risquent de déchanter dans quelques années. Hein.
Oui, tout à fait. Alors, Bertrand, je rappelle que vous êtes le président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes, et que chaque année, avec votre association, eh bien, vous organisez la fête de la tomate à Averskerk. Alors, je demande aux grands spécialistes de ce fruit le plus consommé en France, c'est quoi ce nouveau virus qui menace les tomates et qui met en alerte l'ANSES, c'est-à-dire l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail? Alors, c'est quoi?
Bah alors, apparemment, c'est une maladie qui serait due à un nouveau virus. Hein. Le nouveau virus serait apparu en 2014 en Israël et en 2015 en Jordanie. Et dans les deux cas, il se serait déclaré dans des cultures intensives sous serre. Donc, en 2018... Il est signalé sur le continent américain, au Mexique et aux États-Unis, puis en Europe, en Allemagne et en Italie, et en Espagne. Donc en Allemagne, ça s'est relativement bien passé, puisqu'ils ont réussi à l'éradiquer en enlevant et en brûlant systématiquement tous les plants qui étaient infestés. Donc et puis ensuite, ils désinfectaient le sol. Donc là, ça s'est bien passé. Donc actuellement, il est en Hollande, hein, donc on a un peu peur qu'il vienne vers la France. Donc on reconnaît la maladie par des marbrures. Hein, des petits motifs en mosaïque sur les jeunes feuilles, sur les tomates. Les tomates vont présenter des taches jaunes, parfois des déformations. Leurs feuilles peuvent également avoir des déformations et les fruits peuvent devenir bruns ou fripés. Donc la maladie semble très contagieuse pour les tomates et elle se répand également sur les piments et les poivrons. Donc c'est pas anodin. Alors pour l'instant, il n'y a aucun remède afin d'y faire face. Hein. Donc ce virus ne va pas transmettre aux animaux ni à l'homme. Donc même si on mangeait des tomates contaminées, il n'y aurait pas de risque pour nous. Hein. Mais les fruits sont tellement peu attirants, puis d'autre part la taille des tomates va diminuer, elles auront un aspect rugueux en surface. Donc déjà la qualité gustative n'est pas là, la qualité de la chair est également altérée. Hein. Donc les tomates ne sont pas du tout commerciables. Alors déjà que les tomates industrielles n'avaient pas beaucoup de qualité gustative, là c'est encore pire. Hein. Bon.
Oui.
Les plantes, c'est un virus quand même contagieux, quand même qui se transmet par simple contact de la plante à, par exemple avec les outils, par exemple si vous nettoyez pas vos mains, si vous n'avez pas nettoyé vos outils. Donc, et puis il peut rester même sur le sol, ou sur une feuille, ou sur un outil, plusieurs mois à l'air libre, ou sur vos vêtements, hein, sans aucun problème. Donc c'est vraiment hyper contagieux. Alors la question c'est, que faire pour s'en prémunir, hein. Donc on sait que les plantes forcées sont plus sensibles aux maladies. Donc on va éviter d'amener trop d'engrais azotés, on va éviter d'amener trop grand d'engrais tout simplement aux plantes. Hein. Pour nous, de toute façon, le jardinier, c'est pas la quantité qui compte, hein, mais c'est bien la qualité. Donc nous, en plus du traitement classique, hein, au bicarbonate de soude alimentaire qu'on emploie pour le mildiou, nous je pense qu'on va faire une pulvérisation de préparation à base de macération d'ail. Hein. Donc ce qui serait important, c'est de bien nettoyer ses outils si jamais il y a quelque chose. Hein. Mais ce qui est important aussi, c'est si la maladie arrive chez vous, vous devez obligatoirement la déclarer au service de l'État. Donc pour nous, le service de l'État, ce sera par exemple la déclarer au Fredon, à Saint-Angoël, quoi. Hein? Donc il faudra systématiquement arracher les plants à tas, surtout pas les composter, ne les mettez jamais au compost, hein? Il faudra vraiment les brûler. Hein? Voilà.
De toute façon, il ne faut jamais mettre de plantes malades ou d'herbes malades au compost.
Non, tout à fait, vaut mieux éviter. Hein?
Bien sûr. Alors bon, bah écoutez, on a pris bonne note en espérant que, en effet, eh bien, ça n'arrivera pas chez nous.
Bah oui, parce que c'est assez flippant quand même. Bah
et puis, bah surtout pour oui, et puis bon, ça remettrait peut-être en question la fête de la tomate. Ce serait quand même bon.
Oui, oui. Alors moi, je me dis toujours aussi que puisque nous on a une multitude, une grande quantité de tomates anciennes, peut-être que dans ces tomates anciennes, il y en aura justement une qui résistera au virus. On ne sait jamais. D'où l'intérêt de conserver de ce patrimoine.
On croise les doigts.
Voilà, tout à fait.
Alors Bertrand, vous nous l'avez déjà dit, hein, certains végétaux dits rustiques supportent bien le froid, les conifères par exemple. Alors ce que je ne savais pas, c'est que leur sève se concentre en sels minéraux et en sucre, induisant un effet antigel.
Alors oui, effectivement, beaucoup d'arbres vont survivre à des températures très basses, hein, mais le processus de résistance est encore très mal connu. Hein. Donc les plantes résistent au gel, qui résistent au gel sont effectivement capables de se défendre. L'eau dans leur tissu ne gèle pas. Alors, comment résiste-t-il? Alors, c'est assez compliqué quand même, parce que au début de l'automne, lorsque la croissance commence à se ralentir, les jours vont raccourcir, les températures baissent, et tout cela déclenche un signal. Donc le signal, c'est une production d'abats, c'est de l'acide abscisique, qui va ralentir la croissance. Ensuite, au moment de la première gelée, c'est le moment de la première gelée qui va marquer de nombreux changements métaboliques dans la plante. Hein. Alors parmi ceux-ci, c'est l'accumulation de plusieurs sucres et protéines. Et au fur et à mesure que les températures vont baisser, les sucres s'accumulent dans toutes les parties de la plante et à des teneurs plus ou moins élevées. Hein. Donc ce sucre se concentre dans la sève. Les protéines, ce sont des protéines déshydrines, protègent les contenus cellulaires. Et l'ensemble de toutes ces substances vont empêcher l'eau de s'en transformer en glace. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus complexe. Hein. Alors, certains arbres vont résister à moins 20, hein, d'autres vont résister à moins 30. Mais si les températures baissent encore au-delà de leur résistance connue, bon bah là, il n'y a pas de problème, l'arbre va geler, il va mourir. Hein. Et c'est pourquoi on ne voit pas d'arbres exotiques dans nos régions, parce qu'eux ne savent pas se protéger du froid.
Tout à fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas en mettre.
Exactement.
Alors Bertrand, votre association lance un appel qui pourrait peut-être intéresser un de nos auditeurs. Alors à Morbec, la motte au bois, ça s'appelle comme ça,
c'est oui, c'est ça, la motte au bois, oui.
Un adhérent qui ne se sent plus la force de travailler entièrement son potager souhaiterait le partager avec quelqu'un. Alors si vous avez, je m'adresse aux auditeurs, hein, si vous avez envie de cultiver un potager, renseignements au 03 28 41 66 81 ou alors renseignements en vous appelant Bertrand.
Tout à fait, hein, en passant par le blog ou autre chose. Hein. Mais bon, c'est une personne qui a la santé qui défaille un petit peu en ce moment, donc il souhaiterait partager le jardin, faire cultiver, si quelqu'un n'a pas de jardin et qu'il voudrait cultiver et manger des légumes sains, ben voilà, il a toujours cultivé en bio, donc voilà, vous pouvez vous rapprocher de cette personne.
Tout à fait, voilà. C'est ce qu'on pourrait appeler finalement un jardin partagé.
Tout à fait.
Et puis ça crée des contacts, et puis quelquefois des relations, et puis voilà quoi.
Et puis voilà, c'est vrai, ça crée des liens sociaux, et c'est très bien comme ça.
Tout à fait. Merci Bertrand. On se dit à lundi.
À lundi.
Très très bonne semaine à vous.
Allez, très bonne semaine aux auditeurs et à vous. Hein. Au revoir.
Au revoir.
Première lueur de l'hiver, au premier jour de janvier, au reflet de tes yeux verts, j'ai vu fleurir les oliviers. Au milieu de ces milliers, je t'ai vu danser et sourire. Le roi et son armée déposaient les armes et s'enfuient. Et te voilà emporté par la foule. Soudain sous vos pieds, c'est tout un palais qui s'écroule. Sur cette place des martyrs, vous consumiez comme il se doit les vestiges de l'ancien empire. Et par-delà ces murs qui me retiennent, je brûle qu'à mon tour tu me viennes. Maintenant je sais que tu existes, note mon nom quelque part sur ta liste, que je sois le prochain ou celui d'après, à pouvoir t'embrasser au soleil de janvier. Je voudrais te voir danser encore, dis-moi que je ne suis pas mort. rossignol ne chante plus, votre printemps s'en est allé. Tes yeux verts ont disparu aux premières pluies du mois de mai. Les gens ne dansent plus, la foule n'est plus rassemblée. Les mauvaises herbes ont la vie dure, on pousse plus vite que le blé. Vos sourires emportés par le diable, vos espoirs en un instant balayés par un vent de sable. Sur cette place désarmée, désormais, les soldats montent la garde sur les ruines du palais. Je me languis de toi et je t'attends. Je sais ce sont les mots d'un autre temps, mais le temps m'a joué tant de tout. Je peux bien l'ignorer et le snober à mon tour. Comme cette pierre au creux de ma main, je veux sentir l'odeur de ton jasmin. Ton nom, tout contre mon nom, je te devine et pour nous deux, je redessine un autre mot.
HK et les Saltimbanques sur Radio Plus. Alors quant à lui, eh bien il est le printemps de toute une famille et il s'appelle Romain. Et oui, la semaine dernière, nous avons eu le plaisir d'accueillir sur notre antenne Anne Renard, qui nous a fait part des progrès de son petit Romain, qui grâce à elle, à son papa, à son petit frère et à toute une équipe de bénévoles, peut profiter de la méthode 3i, une méthode de prise en charge de l'autisme par le jeu, jeu qui conduit à l'échange et donc à la communication. Et donc au développement. Cette méthode a bien sûr fait ses preuves sur bon nombre d'enfants. Aussi, Anne a décidé de ne pas rester dans sa bulle et ce qui est efficace pour Romain, comme pour tous ses autres enfants suivis par plus de 40 psychologues et par plus de 6500 bénévoles, pourrait l'être pour d'autres porteurs de troubles neurodéveloppementaux. Et Anne a décidé maintenant de les aider, d'accompagner leur famille. Anne Renard, bonjour.
Bonjour Martine.
Alors, ce que je viens d'énoncer n'est qu'une partie des objectifs que vous vous êtes fixés, Anne, et vous allez aller plus loin en nous donnant la raison d'exister de l'association que vous avez créée.
Oui, nous avons créé en septembre dernier une association qui s'appelle Petit Héros, afin de sensibiliser sur l'autisme, de faire connaître les thérapies d'échange et de développement, mais aussi de lever des fonds pour permettre à Romain de suivre sa thérapie et dans l'avenir d'accompagner d'autres familles qui se tourneraient vers cette prise en charge.
Alors, association Petit Héros, c'est le nom que vous lui avez choisi.
Oui, en fait, on a juste rajouté un S au petit parce que c'est déjà le nom que la page qu'on avait consacrée à Romain pour faire part de ses progrès depuis plus de 3 ans. Maintenant, cette page est publique et on y trouve toutes les informations relatives à l'association, à ses projets et aussi à l'évolution de Romain. Voilà, tout simplement.
Et alors, vous voulez communiquer avec vos proches sur l'autisme, donc, par cette association?
Oui, voilà. En fait, c'était vraiment le but de cette page au départ. Et puis, en fait, aujourd'hui, on l'a étendue à tout le monde, voilà, parce qu'on est sorti de notre bulle aussi, tout simplement. Au démarrage, c'est pas facile de parler de l'autisme. Donc, heureusement qu'on peut écrire, justement pour éviter justement de s'enfermer soi-même également.
Tout à fait. Alors justement pour cette association, Anne, y a-t-il un président d'honneur qui a été par exemple touché par votre combat?
Oui, il y a David James Kennedy, c'est un écrivain lorginois. Il a déjà publié deux policiers, hein, c'est Ressac et Malgré Elle. Je vous les recommande, c'est un vrai moment de détente. Il est très sensible à notre approche de l'autisme, à notre façon d'accepter la différence sans pour autant se résigner à une quelconque fatalité.
Alors, pour lever des fonds ou pour aider d'autres familles, il faut en effet sensibiliser le public, ce qui veut dire faire connaître. Et de même, pour atteindre les parents dans la même situation, il vous faut là aussi permettre les rencontres. Et vous avez déjà œuvré dans ce sens.
Voilà, tout à fait en fait. On va à la rencontre du public sur le terrain. Pour nous, le but, c'est d'avancer, de montrer aux parents qu'il faut garder l'espoir. Mmh. Donc, en fait, on a fait une première action de sensibilisation le 14 décembre dernier au supermarché Leclerc. On a rencontré plus de 400 personnes. On a présenté notre association, on a expliqué en quoi ça consistait l'autisme. Et on a remarqué qu'on a déjà eu une quinzaine de personnes, en fait, qui nous ont fait part être parents ou grands-parents d'un enfant autiste, ce qui est déjà énorme, parce que ça, c'est celles qui osent en parler, justement, le fait de le dire. Donc imaginez un peu les autres qui sont qui ne sortent pas déjà dans un supermarché, tout simplement. Alors nous, on veut pas critiquer le système en disant que tel acteur est défaillant aujourd'hui. Il y a une méconnaissance de l'autisme et chacun fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il peut. Donc le but, c'est pas de travailler contre, mais de travailler avec. Il y a des défauts de prise en charge, donc ce qui est pas normal dans une société de droit, c'est révoltant pour tous. Mais si on garde que ça, on perd son optimisme. Le but, c'est de garder l'optimisme, sa joie de vivre, son enthousiasme pour faire avancer son enfant. Donc voilà, c'est un peu notre état d'esprit. On veut rester positif afin d'améliorer en fait le bien-être et l'épanouissement de notre enfant, tout simplement.
Alors, c'est vrai, Anne. Bon, je suppose qu'il y a aussi d'autres projets en vue, des projets, on va dire, à long terme. Et puis, une journée très importante pour vous en mars aussi.
Oui, voilà. On voulait marquer un petit peu le coup dans le sens où le 2 avril, c'est la journée mondiale de l'autisme. Donc, forcément, on a voulu créer notre événement quelques jours avant, le 28 mars. On organise à l'orgie. Un salon tout simplement de l'autisme vers des thérapies adaptées, donc qui se déroulera de 10h à 18h.
Donc dans quelle salle à l'orgie il y en a peut-être qu'une?
Oui, en fait on a deux salles. On a une salle des fêtes pour le salon en lui-même, et on a également une autre salle dans la maison des associations pour nous permettre de faire une autre conférence tout simplement. Donc toute la journée, ça sera rythmé par le salon et par des conférences.
D'accord. Alors est-ce que c'est un salon ouvert à tous?
Oui, bien sûr. L'entrée, elle est libre à tous. Elle est aussi libre aux professionnels, bien sûr, qui peuvent nous contacter. Par contre, après, au niveau des conférences, il y a deux conférences sur lesquelles il faut réserver puisque les places seront limitées. Il s'agit d'une conférence de Michel Forestier, qui est une kinésithérapeute spécialiste du développement qui forme dans toute la France. Donc, elle reprend le développement de l'enfant de 0 à 3 ans, ce qui permet de repérer quelques petits signes précoces quand il y a un petit problème au niveau du développement de l'enfant. Donc pour nous, c'était important qu'elle vienne justement partager son expérience. On aura la présence également de Andy Chien qui viendra avec des chiens d'éveil pour montrer voilà que le chien en médiation animale peut permettre aussi à l'enfant d'avoir voilà un compagnon, de développer voilà de sortir de sa bulle. Et on aura également une conférence très importante qui sera diffusée parce qu'elle est préparée, la personne ne peut pas venir. C'est le docteur Laurent Tannery, qui spécialise des thérapies de développement et d'échange, et notamment là, ça sera sur la médiation équine.
D'accord.
Et le soir, il y a une conférence d'un chercheur assez connu, qui est Joël Doré, notamment, sur le microbiote et le lien avec certaines maladies. Et là, en fait, c'est étendu à l'ensemble du public, en fait, c'est pas sur l'autisme.
Oui, tout à fait, parce qu'il faut préciser que le microbiote, et il y a eu quand même pas mal d'émissions à ce sujet sur des chaînes sérieuses, on va dire, hein, comme Arte, comme bon, ou qui montrait que le microbiote, c'est-à-dire hein, cette petite flore que nous avons dans les intestins, est très 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 importante, et justement à cause d'un microbiote, on va dire un petit peu défaillant, eh bien cela peut-être provoquer un certain autisme, provoquer aussi des maladies comme la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer ou même beaucoup d'autres maladies, n'est-ce pas Anne?
En tout cas, en matière d'autisme, parce que nous c'est le sujet,
oui,
voilà, qu'on connaît le mieux, on dit pas, moi je dirais pas que ça provoque justement une maladie. Par contre, c'est un frein au développement de l'enfant. Quand l'enfant a un gros problème au niveau intestinal, forcément il sera pas dans un état de bien-être qui lui permettra justement de se développer correctement. Quand on a un enfant qui fait une selle tous les 10 jours ou qui part en diarrhée tous les jours, ça, c'est pas possible qu'il se développe correctement. Il y a trop de souffrance derrière, donc forcément le développement va être ralenti, voire arrêté sur certaines choses. Donc forcément, c'est un frein qu'il faut lever. On n'a pas le choix. De toute façon, tous les freins doivent être levés puisque c'est un arrêt du développement, l'autisme. C'est un trouble neurodéveloppemental. Donc voilà, donc on n'invente rien, on vient juste en fait rassembler tout ce qui peut être des pistes pour la plupart des parents, et aussi comme je vous l'ai dit et vous l'avez très bien rappelé, dans d'autres maladies ça peut être également une piste.
Tout
justement,
à fait.
Joël, c'est ce qu'il vient partager, donc je pense que tout le public est concerné, aussi bien le public médical que toute personne aujourd'hui qui a des troubles de santé, tout simplement.
Alors donc, et puis de toute façon on en reparlera sur cette antenne, hein, de cette journée à l'orgie. Alors on rappelle, ce sera le 28 mars prochain.
Oui, voilà.
Le salon d'autisme à l'orgie de 10h à 18h. Voilà. Et c'est ouvert à tous et c'est une entrée libre, hein. Libre et gratuite.
Voilà. Libre et gratuite.
Alors, Anne, cela a été dit la semaine dernière, vous seriez toujours ravie d'accueillir d'autres bénévoles pour accompagner Romain, mais vous recherchez aussi des sponsors. Et puis, vous voudriez établir un réseau de partenaires pouvant apporter leurs compétences financières et techniques dans la mise en place de thérapies de développement et d'échange. Explication ?
Oui, voilà. La mise en place d'une thérapie, comme nous avons fait avec Romain, nécessite des investissements importants. Il ne faut pas, en fait, que ça soit un frein pour les familles, pour cette mise en place. Les idées, c'est important, mais il faut aussi les moyens pour les réaliser. Donc, c'est pour ça qu'on cherche, en fait, vraiment des mécénats, des sponsors, pour nous permettre, justement, de porter toutes ces idées dans le concret, tout simplement.
Bien sûr. Alors, Anne, ma dernière question sera la suivante. Comment peut-on vous venir en aide ou être partenaire de votre action ?
Alors, nous cherchons des particuliers ou des entreprises qui pourraient sponsoriser cette démarche par le biais de matériel ou de financement.
Anne Renard, merci. Et je vous dis juste à une prochaine fois sur cette antenne. Alors, l'important, m'avez-vous dit, c'est la communication. Nous communiquerons donc encore sur Radio Plus et je rappelle vos coordonnées. On rappelle vos coordonnées. Anne Renard, c'est le 06 77 63 32 11, 06 77 63 32 11. Votre mail, c'est petithéros, tout, qui se touche avec un S à petit, petithéros@orange.fr. Et puis, vous habitez l'Orgie et vous avez une page Facebook Petit Héros, je crois.
Hein. Oui, voilà, c'est bien ça.
Alors, la page Facebook Petit Héros, bon, bah, je suppose, comme je n'y connais rien sur Facebook, je suppose qu'il faut taper Petit Héros, tout simplement.
Simplement, et on tombe dessus, pardon. On tombe dessus directement. Il n'y a pas besoin de lancer d'invitation, elle est publique. Tout est accès, vous avez accès à tout, en fait. Voilà.
D'accord. Anne, merci. Et à une prochaine fois sur cette antenne.
Merci beaucoup, Martine. Bonne journée à tous.
Bonne journée à vous.
Au revoir.
Au revoir. Eh bien, voilà. Donc, je rappelle les coordonnées de d'Anne. Le 06 77 63 32 11.
Il y a des jours où l'on sent tellement pas beau, abonné absent, croquis chaos. Envie de tout.
Eh bien, on ne coûtera pas plus davantage Louis Chédid, puisque c'est déjà le moment de se quitter. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de l'Air du Temps, et puis tout de suite pour Kaléidoscope.